France Info.
Bonjour Edouard Bergeon.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur et fondateur de la chaîne Au nom de la terre.tv, créée pour soutenir le monde agricole, le bien manger aussi, la ruralité. Au nom de la terre, c'est aussi votre premier long métrage que vous avez réalisé en 2019, inspiré de votre propre histoire familiale avec Guillaume Canet dans le rôle principal. Votre cinéma est direct, réaliste, il laisse transparaître l'œil du journaliste et aussi du fermier que vous avez été, que vous êtes toujours dans l'âme. Aujourd'hui, vous sortez La Promesse verte avec Félix Moati, Alexandra Lamy, Julie Chen, Philippe Torreton. C'est l'histoire du combat d'une mère pour sauver son fils, pour libérer en tout cas. Il est condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue, des accusations à tort orchestrées par un gouvernement engagé dans le soutien de la déforestation, donc dans le soutien de la production d'huile de palme. Ce film, il est né après la lecture d'un article, Edouard Bergeon, pendant le tournage d'Au nom de la Terre. Je voudrais que vous me racontiez ce que disait cet article.
Ouais, je pensais déjà au deuxième film quand je tournais Au nom de la Terre, parce qu'un film c'est long. Pour les deux films, ça m'a pris 5 ans à chaque fois. Et je suis tombé sur un article de presse qui racontait une manifestation d'agriculteurs, comme celle qu'on a vue il y a 1 ou 2 mois sur les routes de France. Des problèmes de revenus, et surtout, il disait dans cet article, n'importons pas du bout du monde ce qu'on ne veut pas chez nous. Ce qui est fabriqué à un coût environnemental, social, qui est complètement déplorable par rapport aux normes qu'on nous colle dessus. Et en l'occurrence, là, c'était n'importons pas de l'huile de palme qui vient d'Indonésie et de Malaisie, alors que nous, on a été encouragés il y a une trentaine d'années dans la culture de colza pour faire du biodiesel, comme mon père l'avait été. En fait, c'est là que ça reprend le côté personnel. Mon père qui était agriculteur, pour couvrir ces jachères qui avaient été imposées par l'Europe il y a une trentaine d'années, cultivaient du colza pour faire du biodiesel. Et c'est là que je me suis dit, les agriculteurs français vont être encore les dindons de la farce. Et il y a le début d'un film qui peut naître. Je m'inscris toujours dans ce sillon agricole, mais je raconte un sujet qui se passe à l'autre bout du monde. Alors comment nous concerner quand c'est à l'autre bout du monde ? Eh bien, en créant un personnage d'une mère française, ordinaire, Madame Tout-le-Monde, avec une comédienne exceptionnelle, qui est Alexandra Lamy, qui est une maman, qui va tout faire pour faire libérer son fils, Martin, qui est étudiant, et qui va voir les ravages de la déforestation à l'autre bout du monde. On casse la forêt primaire, on la détruit pour planter des palmiers à huile, pour nous, occidentaux, en fait, la fameuse huile de palme.
Vous dites que c'est à l'autre bout du monde, mais finalement, pas du tout. C'est derrière tous nos paquets de gâteaux.
C'est dans notre placard.
Voilà, c'est dans notre placard à la maison. L'huile de palme, c'est effectivement un désastre écologique, avec effectivement, en premier lieu, cette déforestation et donc cette forêt primaire qui est essentielle, c'est le poumon du monde.
Il y a 3 grandes forêts primaires en Amazonie, on la connaît tous, en Afrique centrale, autour du Congo, et en Asie du Sud-Est, et notamment en Indonésie. Donc, il faut savoir que toujours aujourd'hui, il y a l'équivalent d'un terrain de foot en superficie qui est détruit toutes les 5 secondes dans le monde. Mais tout ça, on peut l'endiguer.
On se rend compte à quel point on est tout petit par rapport à ça, à quel point c'est difficile de faire changer les mentalités et à quel point les gouvernements eux-mêmes sont intrinsèquement liés à tout ça et à ces décisions. Tout est très hypocrite. C'est aussi un message politique que vous nous livrez là, à travers un drame humain. On est encore en réponse au nom de la Terre, j'ai l'impression.
On est petit, mais on peut faire bouger les choses. Vous l'avez dit, retourner les étiquettes, c'est devenir consommateur. Donc déjà, on peut décider de ce qu'on achète ou pas. Moi, je ne mange pas d'huile de palme. Donc c'est réapprendre déjà au tout petit à responsabiliser. Ensuite, voter. On a un bulletin de vote qui est notre carte bleue en achetant ce qu'on veut ou pas. On peut voter aussi pour vraiment des hommes ou des femmes politiques qui peuvent changer les choses, parce qu'on peut faire changer les choses. L'incorporation d'huile de palme dans les biocarburants a été interdite par le Conseil d'État l'année dernière en France. Donc avec des ONG, des activistes, des politiques qui jouent le jeu, on peut faire bouger les choses. Et heureusement, parce que mon film parle de déforestation, mais délivre quand même un message positif. Quand on se bat, on peut faire bouger les choses. Oui, c'est la grande histoire, c'est des lobbying, c'est de la politique, mais c'est aussi une critique de l'économie mondialisée. On a tout le temps comme on veut pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le transport coûte rien. Là, je disais un papier sur l'agriculture. On est les premiers en France dans la filière du lin. On est les premiers producteurs de lin. En fait, le lin va se faire carder et tisser en Chine pour fabriquer des vêtements pour que ça revienne chez nous. Il n'y a pas un petit problème quand même? Tout ça parce que le transport est gratuit. C'est la même chose avec la promesse verte. On parle d'huile de palme. Alors, on l'a dit, dans les produits alimentaires, mais dans la cosmétique, dans les lessives. Et surtout, la promesse verte, c'est la promesse d'une énergie verte. C'est-à-dire faire voler les avions au kérosène vert, faire de l'électricité verte et faire rouler les voitures au carburant vert. Quand vous voyez cette forêt qui est mise par terre avec un puits de biodiversité extraordinaire, quand vous voyez comment on cultive les palmiers avec de l'engrais chimique synthétisé à base de gaz russe, du glyphosate partout, et que ça vient en super tanker.
Des désherbants aussi.
Voilà, donc en gros, c'est une vaste plaisanterie. Donc,
des cargos remplis de fuel pour transporter
du
tout
fuel lourd, ouais, qui crée de l'oxyde de soufre et qui est un des principaux polluants. Ça sera trop tard quand on aura fait tomber toute cette forêt primaire. C'est vraiment un puits de biodiversité. Donc ça nous concerne en fait. C'est loin et c'est proche, c'est ce que raconte ce film.
Je voudrais qu'on parle aussi des personnages que vous avez créés et qui sont systématiquement très proches de nous. Effectivement, le point de départ, c'est Au nom de la Terre. C'est votre histoire familiale, on ne va pas se mentir, avec le décès de votre père. C'est aussi un hommage que vous lui rendez, c'est aussi une façon de continuer à le faire vivre.
Oui, bien sûr, c'est les valeurs qu'il m'a transmises. Mon père était déjà un voyageur. En 77-78, il était allé voir au Wyoming ce qui se passait aux États-Unis. Et j'ai retrouvé toutes ses lettres et il y avait un côté journaliste. Il décrivait en fait l'agriculture et les communautés Amish, Mormones... qu'il découvrait en fait. Donc c'est un hommage dans mon travail. Et puis là, dans ce deuxième film, La Promesse Verte, c'est peut-être aussi plus un hommage à ma maman, parce que c'est le rôle d'une héroïne. Alexandra Lamy joue une combattante du quotidien.
Il ne lâche rien.
Il lâche rien et c'est en fait, elle est démunie, cette maman. Elle pourrait être vous, elle pourrait être moi, elle pourrait être un papa d'ailleurs. On est tout petit face à un grand système, mais par amour pour son fils, elle va déplacer des montagnes. Et le spectateur va découvrir avec elle, pas plus vite qu'elle, tous les enjeux. Voilà, elle se prend à des portes dans la figure, on les prend avec elle, on va avoir peur, on a peur avec elle, et quand elle va sourire et être émue, on va être émue avec elle. Et donc il y a beaucoup de ma maman, et je pense qu'il y a aussi un peu de moi dans le fils Martin, puisque j'en ai fait un étudiant qui va voir les ravages de la déforestation, et il va rencontrer une activiste, une jeune lanceuse d'alerte sur place. Je me suis inspiré de toutes ces jeunes femmes qui sont des lanceuses d'alerte. Aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes qui défendent leur terre, leur peuple, et en l'occurrence, ils se trouvent tous les deux témoins d'une exaction, et ensuite, Martin est victime d'une machination. Et c'est vrai que pour avoir parcouru les forêts amazonienne, voilà, est allé en Argentine voir ces étendues de soja, en Brésil, pareil, et ben là, c'est important pour moi de raconter la déforestation et ces océans de palmeraies. Il faut savoir que les palmiers, c'est pas des arbres, en fait. On disait, ils sont boostés aux engrais chimiques, mais c'est de la monoculture. Et vraiment, quand on est au milieu de ces océans de palmiers, on n'entend plus rien. Il n'y a plus de vie. Alors que dans une forêt primaire, c'est... très très bruyant et c'est beau parce que c'est une symphonie en fait.
Je voudrais qu'on parle de votre engagement, il est lié aussi à votre histoire familiale, encore une fois. Petit garçon, vous avez été élevé dans cette ferme de côté de Poitiers. Vous gardez quoi de cette enfance? Elle ressemblait à quoi cette enfance?
C'était génial, grandir au milieu du vivant, de la nature, des animaux. Moi, quand je suis arrivé à Paris et que je suis devenu journaliste, j'avais plein de gens bardés de diplômes autour de moi. Moi, c'était pas le cas, mais j'avais un bac plus 15 en agriculture, quoi.
Donc, bac S et après, effectivement, vous avez...
Ouais, mais ce que je veux dire, voilà, dès que j'étais... C'était ma manière de dire que je connaissais plein de choses dans le concret du quotidien, parce qu'un agriculteur, il travaille, faut pas l'oublier, entre le ciel et la terre. Il est vulnérable, il doit s'adapter tous les jours. Donc les injonctions contradictoires qu'il peut y avoir les concernant, c'est quand même très très compliqué. On est sur du temps long, comme le cinéma d'ailleurs. La culture et l'agriculture se ressemblent quand même beaucoup. Et l'esprit d'entreprise aussi, on doit s'adapter tout le temps. On doit faire avec le marché, on doit faire avec les desiderata de la société, on doit faire avec le vivant. Et le vivant, les animaux, c'est tous les jours. Donc c'est une passion, c'est un sacerdoce, j'en retire beaucoup de passion, ouais, et beaucoup de vie. Et même si elle m'a pris une vie importante, l'agriculture, elle m'amène beaucoup tous les jours, et notamment tout ce qu'on a sur la table, ce qu'on mange, ce qu'on boit, c'est infini, donc c'est pour ça que je m'éclate.
Entre-temps, vous êtes devenu journaliste pour France 3, Poitou-Charentes, pour France 2 aussi, vous avez créé des documentaires où déjà vous abordiez ces suicides. On va préciser qu'il y a un paysan qui se suicide par jour en France, oui. Ce qui est quand même assez dramatique puisque ça continue. Est-ce que Au nom de la Terre, ce film et le retentissement qu'il a eu ont changé selon vous les mentalités? Est-ce que ça a fait avancer les choses? Est-ce qu'on a davantage plus regardé en face notre réalité et le quotidien des agriculteurs?
On en a parlé, puis j'ai mis mon ami du cinéma sur une famille d'agriculteurs, Guillaume Canet qui a porté la cause avec moi. Ce film a eu un retentissement, 2 millions d'entrées, beaucoup de ruraux sont venus voir le film. On l'a montré à l'Élysée, au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Le président a déclenché une mission parlementaire sur le mal-être agricole et le suicide, qui a donné lieu à un plan que Julien de Normandie, à l'époque ministre de l'Agriculture, a porté et que j'ai pu accompagner également. Il y a vraiment du concret qui a été fait. Il n'y avait jamais eu de plan, c'est jamais assez, mais ça a eu le mérite d'exister, en tout cas de mettre le sujet au milieu des organisations professionnelles agricoles, au milieu, il y a des référents maintenant sur chaque préfecture. Donc, en tout cas, on en parle. Et en tout cas, les agriculteurs qui étaient en détresse se sont dit « je ne suis pas le seul ». Ça permet de libérer la parole. La Mutualité sociale agricole a fait beaucoup de prévention autour du film également. Solidarité paysan notamment, qu'une association de bénévoles qui fait un travail formidable, a pu avoir plus de moyens, plus de visibilité. Donc, toujours pareil, le cinéma, aussi bien pour La Promesse Verte que pour Au nom de la Terre, permet de faire avancer les choses. Quelque part, on est des artivistes. On prétend pas changer le monde, mais on peut faire gagner du temps. En tout cas, l'art peut servir à ça.
L'activiste et des consommateurs, j'ai bien compris. Le tournage a eu lieu en Thaïlande, hein, parce que c'était évidemment impossible de tourner en Indonésie. Mais par contre, vous êtes inspiré de faits survenus en Indonésie avec les Dayak, qui sont donc une communauté autochtone indonésienne qui vit sur l'île de Bornéo. Voilà.
Une énorme île.
Et qui lutte pour préserver ce qu'on appelle leur tourbière. C'est très important.
Les paysages, leur culture, leur tourbière, leur patrimoine et leur biodiversité.
Les paysages sont parfois à couper le souffle. C'est un autre exercice quand même, là. J'ai l'impression que vous avez encore plus avancé sur la façon de tourner, vous proposez encore plus autre chose. C'est-à-dire qu'il y a le drame humain, il y a le message politique, et en plus, il y a ce besoin d'aller conserver ce côté documentaire, ce que vous avez depuis des années.
Aussi bien Au nom de la Terre, il y avait un grand personnage qui était la ferme et la terre, et là, La Promesse verte, il y a un grand personnage qui est la forêt. Et cette forêt primaire qui est millénaire, il fallait la filmer, prendre de la hauteur. J'ai eu la chance de croiser un orang-outan lors de mes repérages, pour le coup, en Indonésie, que j'ai pu filmer moi-même en Indonésie. C'était très émouvant, et il faut en tomber amoureux, spectateur de cette forêt, avant de la voir être détruite, cette forêt, pour justement créer un choc. Et oui, c'est mon côté documentaire, j'aime que ça soit organique, et pour moi c'était important d'avoir des lieux crédibles, aussi bien la forêt primaire que des palmeraies, une usine qui produit l'huile de palme, on se retrouve dans des prisons, dans un tribunal, tout ça, ce sont des décors vraiment du quotidien. Et en France, jusqu'à tourner au Quai d'Orsay, vraiment, c'est le cœur du réacteur de la diplomatie, on parle beaucoup de diplomatie dans ce film, forcément. Et d'être dans des décors où tout se passe, ben ça, pour les comédiens, pour la caméra, pour la mise en scène, ça apporte un supplément d'âme, donc c'est chargé d'histoire. Donc on a envie justement de le raconter.
Je voudrais que vous répondiez à l'article de Télérama qui vient de sortir, là, de Rabergeon, c'est important. Avec Antoine Robin, le producteur du film Au nom de la Terre, vous êtes montré du doigt pour des méthodes un peu compliquées sur des tournages avec l'utilisation...
Je ne veux pas commenter des commérages, donc...
C'est important quand même d'en parler.
Bah non, pas du tout.
Et on vous reproche notamment, certains collaborateurs, de faire des films publicitaires.
Vous ne me parlez pas du papier des Échos de ce week-end où je raconte tout ce que je fais justement, avec notamment Auchan, qui est partenaire de La Promesse verte, qui fait 1 euro supplémentaire pour l'association dont je suis le parrain, Des enfants et des arbres, où on replante des arbres avec des enfants. On soutient avec Auchan les filières françaises agricoles qui contractualisent justement avec en volume et en prix avec les agriculteurs. En fait... faut bien imaginer que la grande distribution, pour parler de cette marque exactement, il y en a d'autres qui jouent le jeu. Si elle n'existait pas, il n'y aurait plus d'agriculture en France. 85% des Français font leurs courses, vous savez où ? Dans la grande distribution. Donc moi, avec tout le panel de ce que je fais, je travaille avec les gens qui jouent le jeu. Et en fait, j'ai même fait un film publicitaire pour Auchan l'été dernier, qui s'appelle « Le pouvoir d'acheter français ». Voilà. Et de ne pas acheter ailleurs. Et puis, c'est une marque patrimoniale pour moi, d'enfance, et c'est important pour moi de raconter là où j'ai grandi. Zidane, on lui avait reproché de faire une pub pour la Danette, mais en fait, il a grandi avec la Danette quand il était petit, en fait. Donc, c'est assez rigolo, justement, d'opposer les actions culturelles, les actions journalistiques, et justement, ce qu'on peut faire aussi pour changer les choses. Vous savez, il faut monter dans le cockpit pour détourner un avion, donc moi, c'est ce que j'essaie de faire.
Ça vous affecte, là, les accusations ?
Il n'y a pas d'accusation, donc je ne vais pas commenter des commérages, comme je vous dis.
Enfin, c'est quand même un article de Télérama, c'est pas...
Je ne sais pas qui est Télérama, en fait.
D'accord,
c'est de la morale.
Je voudrais que vous me disiez ce que représente ce film dans tout ce travail que vous avez déjà commencé, Edouard Bergeon, parce qu'on sent qu'encore une fois, ça va dans le sens que plus on avance et plus vous avez besoin d'être davantage précis et encore une fois de prendre les gens par la main. C'est-à-dire que là, il y a aussi une conscience qui est mise en jeu à travers votre travail. C'est aussi ça, le cinéma, c'est de faire changer les choses et d'aller chercher le consommateur et de lui donner envie de consommer différemment.
Bien sûr, moi je ne suis pas là pour être procureur ou pour dire il n'y a qu'à Faucon, il y a plein de gens qui s'en occupent très bien pour ça, notamment le papier dont vous citez. Moi je suis là pour justement témoigner avec ma caméra, mettre un regard et valoriser celles et ceux qui nous nourrissent et créer des ponts plutôt que de créer des fossés. Quoi.
La suite c'est quoi ?
Les vacances et lire un bon Télérama.
Merci beaucoup Edouard Bergeon d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info, ça s'appelle La Promesse verte, ça vient de sortir avec Alexandra Lamy. Merci beaucoup.